Livret d'accueil FIDEV. Le mot de la direction. Bienvenue à vous. Vous êtes plus de 200 personnes, chaque année à être suivies par le service de soins médicaux et réadaptation de la FIDEV, mais c'est à chacun de vous, individuellement, que s'adresse ce livret d'accueil. Nous savons combien, lorsque vous arrivez dans notre service de réadaptation, les conséquences des difficultés visuelles que vous rencontrez perturbent votre vie. Aussi, nous voulons tout faire pour que votre séjour, étape décisive vers une plus grande autonomie, soit le plus réconfortant et le plus personnalisé possible. Nous avons réalisé ce livret pour vous donner des repères précis sur le fonctionnement du service et pour que vous recouvriez au plus vite le maximum d'autonomie dans votre vie quotidienne, sociale et professionnelle. La direction. Une présentation générale. L'équipe. Médecin ophtalmologiste. Médecin généraliste. Orthoptiste. Orthophoniste. Psychomotricien, instructeur de locomotion, ergothérapeute, enseignant en braille, psychologue, assistant social, rééducateur et formateur en aide technique informatique, cadre de rééducation, ergonome, secrétariat médical, pôle administratif, responsable qualité, équipe de direction. Fin de la liste. 2. Votre séjour au SMRDV. Le service de soins médicaux et de réadaptation de la FIDEV accueille les patients adultes de plus de 18 ans, assurés sociaux, atteints de déficience visuelle. Identifié basse vision par un médecin ophtalmologiste, classification OMS. 1. Admission. Lors de vos rendez-vous d'admission au sein du SSRDV, vous avez rencontré plusieurs professionnels, le médecin généraliste, le médecin ophtalmologue, l'orthoptiste, la cadre de rééducation responsable du service. Un pré-programme de rééducation individuelle et personnalisée pour lequel vous avez donné votre consentement est signé lors de votre rendez-vous d'admission. Avec le médecin généraliste. Le médecin généraliste est le responsable du fonctionnement médical. C'est lui qui validera votre projet de rééducation. Un rendez-vous avec le médecin généraliste du service est programmé en milieu de parcours pour le bilan intermédiaire. Il vous sera remis un lien vert. Un questionnaire de 9 questions qui a pour objectif de mettre en évidence votre ressenti depuis le début de votre prise en charge. Il sera analysé par les représentants des usagers dans une démarche constructive visant à l'amélioration de la prise en charge. Le médecin restera à votre écoute tout au long de votre rééducation et pourra être amené à être en lien avec votre ophtalmologiste traitant, votre médecin traitant, votre médecin du travail ou tout autre intervenant médical en lien avec vous. La cadre de rééducation du service sera votre interlocuteur privilégié. Elle est le référent de l'organisation de votre prise en charge rééducative. C'est elle qui coordonne votre rééducation et sert de relais auprès de l'équipe. Et transmet les informations au médecin généraliste. 2. Bilan et prise en charge rééducative. Une phase globale de bilan vous sera proposée en fonction de votre projet individuel. Elle débouchera sur les rééducations nécessaires. L'équipe médicale et paramédicale se concertera ensuite afin de vous proposer un programme thérapeutique. Ce programme est construit en fonction de vos besoins identifiés dans chaque domaine de rééducation où un contrat écrit sera établi. Certaines rééducations se feront en parallèle, d'autres les unes à la suite des autres, ceci afin de respecter une progression cohérente. Ce programme sera discuté en équipe et validé par notre médecin généraliste. Cette phase de bilan débutera, si nécessaire, par un bilan fonctionnel réalisé par l'orthoptiste spécialisé en basse vision. Orthopsie. L'orthoptiste réalisera des examens visuels complémentaires, champ visuel, vision des couleurs, des contrastes. Toutes ces informations sur votre vision sont indispensables aux rééducateurs pour adapter leur prise en charge. À l'issue de ce bilan, l'orthoptiste définira si un bilan orthoptique basse vision, un bilan des aides optiques et ou un bilan prismatique sont nécessaires. Une prise en charge rééducative pourra être prescrite à la suite de ces bilans. L'objectif de la rééducation basse vision est d'optimiser le potentiel visuel de la personne malvoyante dans les activités de lecture, d'écriture et de recherche d'informations dans l'environnement immédiat. Ensuite, en fonction de votre projet individuel, différents bilans et rééducations pourront vous être proposés dans les disciplines suivantes. Ergothérapie. Plusieurs axes pourront être abordés: évaluation du développement des sens compensatoires et ou pré-braille, aménagement du domicile, éclairage, évaluation. Activité de vie journalière, activité de vie quotidienne, évaluation clavier, projet parentalité. Ces bilans peuvent déboucher sur un travail réadaptatif pour acquérir une autonomie dans l'ensemble des gestes de la vie quotidienne, préparation et prise. Des repas habillement, soins corporels ménage, repassage écriture noir, loisirs, des conseils pour l'aménagement de l'éclairage du domicile seront aussi possible. L'objectif de la rééducation sera de vous amener à mettre en place des stratégies de compensation du handicap au niveau organisationnel, au niveau 2. La communication avec votre entourage par l'apprentissage du clavier informatique ou la préconisation et la prise en main de différentes aides techniques spécifiques telles que la téléphonie portable parlante au niveau de la prise d'information dans votre environnement avec des stratégies sensorielles pour la formation de représentation mentale fiable. Psychomotricité. La psychomotricité s'inscrit dans une démarche globale, rééducative et thérapeutique, dont l'objectif est de permettre une meilleure prise de conscience. Du corps, schéma corporel, tonus, des capacités en abordant notamment la structuration dans l'espace et le temps, l'équilibre, les coordinations et dissociations. La relaxation. Sur la base de l'engagement du vécu corporel, le psychomotricien a pour but de favoriser, permettre ou restaurer l'harmonie de l'équilibre psychocorporel, afin que vous puissiez vous adapter au mieux aux exigences de la vie et de votre environnement. Orthophonie. L'orthophoniste est le professionnel de santé qui prévient, repère et traite les troubles de la communication, de la parole et du langage. L'orthophoniste exerçant en déficience sensorielle commence tout d'abord par dresser un état des lieux de la situation actuelle du patient en évaluant les capacités communicationnelles et auditives de la personne. Ce bilan s'effectue à travers un entretien, suivi d'une série de tests fonctionnels capacités. Apercevoir, identifier, localiser un son, aptitude à comprendre dans un milieu bruyant, utilisation ou non de la lecture labiale pour optimiser la compréhension. L'objectif est de déterminer les aspects qui vous font obstacle et ceux sur lesquels il sera possible de s'appuyer pour compenser les troubles au quotidien. Une fois le bilan réalisé, les séances se déroulent dans l'auditorium et permettent, grâce aux 8 haut-parleurs disposés en 360, d'affiner les capacités auditives en travaillant à tous les niveaux, percevoir une source sonore ou plusieurs concomitantes, identifier un bruit du quotidien, localiser la provenance d'un ou plusieurs sons, comprendre des voix avec des caractéristiques acoustiques complexes, avoir accès à un message noyé dans le bruitant. De situations qui peuvent faire écho aux situations du quotidien comme les déplacements, la compréhension de voix de synthèse ou l'alerte et la vigilance. Pour les personnes en situation de déficience visuelle, il sera surtout question de faire travailler les fonctions auditives et le cerveau, mémoire, en soutien à la vision fragilisée. Pour les personnes en situation de déficience auditive, on aura recours à la vision, lecture labiale ou au processus inférentiel pour compléter les messages. Les personnes en situation de double déficience s'inscrivent également pleinement dans cette prise en charge. Multimodale. Rééducation en locomotion. Le rôle des instructeurs en locomotion est de vous amener à acquérir ou à retrouver, en fonction de vos possibilités, une autonomie dans vos déplacements. Par la mise en place de techniques de locomotion adaptées à votre handicap, mise en place de stratégies visuelles, utilisation d'aides optiques, analyse de l'environnement avec l'ensemble des sens disponibles, apprentissage de la canne si nécessaire. Rééducation en aide techniques informatiques spécialisées. L'outil informatique sera abordé comme un outil d'aide à la compensation. Il ne s'agit en aucun cas de proposer une formation informatique, mais bien de proposer des outils aides techniques spécialisés, logiciels de grossissement de caractère, synthèse vocale, bloc-notes braille, qui vous permettront de retrouver un accès à la lecture, à l'écriture et à la communication. La phase de bilan se décompose en définition des aides techniques adaptées ou définition des besoins d'apprentissage des aides techniques. À l'issue du bilan, différents modules pourront être combinés: module Windows de base, module de navigation au clavier, module d'apprentissage des aides techniques, module de l'usage, réapprentissage des usages antérieurs de l'informatique. Rééducation en braille. Il peut également être proposé de travailler la communication par le braille. Une pré-évaluation sera proposée par les ergothérapeutes et un bilan par le rééducateur braille sera également fait pour déboucher ensuite sur 4 situations en fonction de votre projet individuel. Niveau 1, découverte de l'alphabet braille, 26 lettres de l'alphabet et 14 lettres accentuées. Niveau 2, déchiffrage et marquage. Niveau 3, initiation et apprentissage au braille intégral. Niveau 4, initiation et ou apprentissage du braille abrégé. Une remise à niveau peut être proposée en fonction de vos besoins. Accompagnement personnalisé. Le psychologue peut vous proposer un accompagnement psychologique individuel, acquis, difficultés, stratégies adoptées et ou en groupe, groupe de parole, afin de vous aider à verbaliser et intégrer les conséquences liées à la déficience visuelle. Il va s'appuyer sur les acquis progressifs de la rééducation pour vous permettre de restaurer votre image et redonner une plus juste place au handicap. L'assistante sociale peut vous recevoir à tout moment de votre rééducation pour toute question d'ordre personnel, administratif ou social liée à votre déficience visuelle. 3. Fin de séjour. Vous reverrez lors de rendez-vous le médecin ophtalmologue, votre référent et l'assistante sociale afin d'effectuer votre bilan de fin de rééducation globale. Cet entretien a pour objectif: liste de 2 éléments. De faire le bilan de votre parcours de rééducation-réadaptation. D'envisager un relais au niveau local avec d'autres partenaires sociaux ou associatifs. Fin de la liste. Par la suite, nous vous communiquerons votre bilan de fin de rééducation ainsi qu'à votre médecin traitant et à votre ophtalmologue. Un questionnaire de satisfaction vous sera remis à la fin de votre séjour. Ce questionnaire, anonyme, est à laisser à l'accueil ou à nous renvoyer. Vous pouvez également le déposer dans la boîte aux lettres réservée aux patients qui se situe sur le mur de la salle d'attente au deuxième étage. Nous attachons beaucoup d'importance au questionnaire de sortie. En y répondant précisément, vous contribuerez, par vos remarques, vos critiques et vos suggestions, à améliorer la qualité du suivi des patients. E-information pratique. En cas d'urgence, numéro à composer. Pompier 18. Police 17. SAMU 15. 1. Horaire. Le service est ouvert du lundi au vendredi. Liste de deux éléments. De 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudi. De 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 16h30 le vendredi. Fin de la liste. Pour la bonne organisation du service et de votre réadaptation, vous serez reçu sur rendez-vous uniquement. Merci de vous présenter systématiquement au secrétariat au R+2 à chaque arrivée dans le service à l'accueil. L'établissement est un lieu ouvert et malgré notre vigilance, les vols ne sont pas exceptionnels. N'apportez pas d'objets personnels. En cas contraire, l'établissement n'est pas responsable en cas de perte, de détérioration ou de vol. 2. Plan d'accès. L'entrée du bâtiment est équipée d'une balise sonore. Celle-ci comprend trois messages. Liste de trois éléments. Le premier est dédié à l'accès au service de la FIDEV. Il renseigne sur le positionnement de l'interphone qui permet au secrétariat d'ouvrir à distance la porte et indique l'accès à l'accueil de la FIDEV qui se fait au deuxième étage. Le deuxième permet, en quittant le bâtiment, un guidage en direction du métro et de l'arrêt de tramway. Le troisième message indique quant à lui l'accès à la maison 2. Santé, qui occupe le premier étage du bâtiment et dont l'entrée se fait par la rue du professeur Ranvier et non par la place des frères voisins comme pour la FIDEV notamment. Fin de la liste. Accès à l'établissement. Métro. Depuis Perrache. Prendre la ligne à direction Vaux-en-Velin-la-Soie. Descendre à l'arrêt Bellecour. Prendre la ligne des directions gare de Vénissieux. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. Depuis Pardieu. Prendre la ligne B direction gare d'Oulin. Descendre à l'arrêt Saxe-Gambetta. Prendre la ligne des directions gare de Vénissieux. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. De la gare de Vaise. Prendre la ligne des directions gare de Vénissieux. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. Tramway. Depuis Perrache. Prendre le T1 direction de Bourg. Descendre à l'arrêt de Bourg, terminus. Prendre le T6 direction hôpitaux Épinel. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. Depuis Pardieu. Prendre le T4 direction hôpital Féizin Vénissieux. Descendre à l'arrêt Beauvisage CISL. Prendre le T6 direction hôpitaux Épinel. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. De la gare de Vaise. Pas de possibilité de prendre le tramway à moins de prendre le métro des directions gare de Vénissieux. Prendre le T1 direction de Bourg. Descendre à l'arrêt de Bourg, terminus. Prendre le T6 direction hôpitaux Épinel. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. BUS. Depuis Perrache. Prendre le bus 34 direction Grange Blanche. Descendre à l'arrêt Mermoz-Californie. Prendre le bus C15 direction Laurent Bonnevet. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. Depuis Pardieu. Prendre le bus C13 direction Grange Blanche. Descendre à l'arrêt Grange Blanche, terminus. Prendre le bus 1 direction Colombier-Saugneux-Salines. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. Depuis le centre-ville. Prendre le bus C13 direction Grange Blanche. Descendre à l'arrêt Grange Blanche, terminus. Prendre le bus 1 direction Colombier-Saugneux-Salines. Descendre à l'arrêt Mermoz-Pinel. En voiture. En voiture, prendre la sortie à 43 en direction 2. Saint-Priest-Chambéry-Grenoble, aéroport de Lyon-Saint-Exupéry-Lyon, Mermoz. La FIDEV est située en face des Galeries Lafayette. 3. Prise en charge de vos frais d'hospitalisation. Le service régional de réadaptation de la FIDEV est un service de soins médicaux et de réadaptation agréé par l'assurance maladie. De ce fait, la prise en charge de vos séances de rééducation-réadaptation, quelle qu'elle soit, est liée à votre statut d'assuré social. Pour déterminer quels sont vos droits et bénéficier d'une prise en charge des frais de rééducation, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants. Liste de un élément. Votre attestation d'assuré social, personnelle, celle de vos parents à jour de droit ou celle de votre conjoint. Si besoin, faire une mise à jour dans une borne de l'assurance maladie. Fin de la liste. Liste de un élément. Votre carte complémentaire santé ou mutuelle. Fin de la liste. Grâce à ces éléments, nous saurons si vous êtes bénéficiaire d'une prise en charge à 80% ou à 100%. Liste de un élément. Dans le premier cas, vous aurez à régler le montant du ticket modérateur, c'est-à-dire 20% du forfait de séance, tarification journalière. Si vous avez une complémentaire, mutuelle, elle pourra prendre en charge cette part. Fin de la liste. Liste de un élément. Si vous êtes bénéficiaire d'une exonération du ticket modérateur, dans ce cas la Sécurité sociale nous réglera intégralement le prix de journée. Fin de la liste. 4. Le transport. Une prescription médicale de transport pourra être établie par le médecin ophtalmologue du service lors de la phase d'admission définitive. À charge pour vous de contacter une compagnie de transport sanitaire conventionnée par la Sécurité sociale, liste sur Amélie. FR. 4 droits et devoirs. 1. L'accès au dossier patient. Les informations médicales recueillies tout au long de votre séjour restent strictement confidentielles. Sauf opposition de votre part, certaines peuvent faire l'objet d'un enregistrement informatique réservé à l'usage médical. Conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à celle de ses décrets d'application, vous disposez d'un droit d'accès à votre dossier médical. Tout médecin inscrit à l'ordre, dont votre médecin traitant et ou le médiateur médical de la CDU, et que vous aurez préalablement désigné, peut également prendre connaissance du contenu du dossier. Dans tous les cas, pour accéder à celui-ci, il faut que vous en formuliez la demande écrite auprès du directeur de l'établissement, accompagnée d'une photocopie de votre pièce d'identité. Un formulaire est à votre disposition au secrétariat. L'accès se fait dans les 8 jours suivant la réception de votre demande écrite. Toutefois, si le dossier a plus de 5 ans, ce délai est allongé à 2 mois. La demande d'accès doit être adressée. Liste de 2 éléments. Soit au médecin de l'établissement, soit au directeur de l'établissement. Fin de la liste. 2. Informatique et liberté. À l'occasion de votre séjour au sein de l'établissement, des renseignements administratifs et médicaux vous concernant sont recueillis. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatique pour faciliter votre accueil et améliorer l'efficacité de la gestion de votre dossier. La loi N78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous confère à l'égard de ces traitements incertains. Nombre de droits. Vous disposez en particulier d'un droit d'accès direct aux informations administratives vous concernant, sur demande écrite adressée au directeur de l'établissement. Les informations médicales et paramédicales vous sont également accessibles mais uniquement par l'intermédiaire du médecin coordinateur ophtalmologue. La loi vous confère par ailleurs un droit de rectification des informations qui pourraient être erronées, incomplètes ou équivoques. Enfin, vous pouvez, pour des raisons légitimes, vous opposer à la saisie et au traitement informatique de données vous concernant. Nous vous informons également qu'un certain nombre de données vous concernant peuvent être traitées par informatique dans trajectoire astérisque. Cette possibilité est fonction de l'origine de la demande d'admission et fonction de l'orientation à la fin de votre rééducation. Astérisque trajectoire est l'outil conçu au sein de la coordination en SSR des territoires de santé de Lyon et Villefranche-sur-Saône dès 2003. Cet outil, généralisé dès 2008, aide les établissements dans leur travail d'orientation et de transfert de chaque patient dans la structure de SMR la plus adaptée à son projet de rééducation, réadaptation et réinsertion sociale. 3. Le règlement de fonctionnement. Il est très important pour le bon fonctionnement du service et le bon déroulement de la rééducation de vous engager dans cette démarche avec assiduité. Votre collaboration et votre participation sont en effet indispensables à l'efficacité du travail de l'équipe de réadaptation. Ainsi, il est nécessaire de respecter les horaires des séances définies conjointement avec les intervenants du service. En cas d'empêchement, il est donc impératif de prévenir au moins 48 heures à l'avance. Un justificatif vous sera alors demandé. En cas de non-respect de ces règles, nous pourrons être amenés à suspendre voire arrêter le projet de rééducation. 4. Plainte et réclamation. Tout usager de l'établissement peut exprimer ses griefs, son mécontentement auprès de la direction du SMRDV FIDEV, soit oralement et sur rendez-vous soit par courrier, boîte aux lettres réservée aux patients sur le mur de la salle d'attente au deuxième étage, ou en l'inscrivant dans le cahier des plaintes et réclamations mis à disposition au secrétariat accueil du SMRDV FIDEV. Les demandes sont à adresser à Madame la directrice de la FIDEV. 5 places des frères voisins. 69008 Lyon. Votre demande sera systématiquement examinée et une réponse par courrier vous sera adressée. En cas d'insatisfaction de votre part, nous vous invitons à solliciter à nouveau Madame la directrice, qui en qualité de personne chargée des relations avec les usagers, PCRU, s'engage à faire le lien avec la commission des usagers, CDU. Il pourra, le cas échéant, vous mettre en relation avec un médiateur. Médecin ou non médecin, membre de la CDU. Le ou les médiateurs vous recevront, vous et votre famille éventuellement, pour examiner les difficultés que vous rencontrez. La commission des usagers, CDU. Cette commission est chargée de veiller au respect des droits des usagers au sein du service et de faciliter leur démarche. Elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes et de leurs proches. Elle se réunit au moins une fois par trimestre pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises par la direction. La liste des membres de la CDU est annexée au présent livret d'accueil. La représentation des usagers à la FIDEV, ce sont deux postes titulaires, Madame Borghès et Madame Perrin. Les représentants des usagers contribuent à la définition de la politique d'accueil et de prise en charge à la FIDEV, qui répond aux articles L111-2-1A, L1112-6 du Code de la Santé publique, chapitre 4 du livret d'accueil sur les droits et devoirs. Le règlement de fonctionnement du service est précisé dans ce livret et détaillé dans la charte d'engagement envoyée avec le dossier d'admission et expliqué lors de votre rendez-vous d'admission avec la cadre de rééducation. La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel de l'établissement. Nous procédons à une évaluation régulière de votre satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour avec le questionnaire de sortie. Les résultats sont portés à la connaissance de la commission. Des usagers. Le représentant des usagers, RU, fait le lien entre les usagers et les professionnels de santé et les institutions. Il est le porte-parole des usagers dans les commissions et instances dans lesquelles il a été mandaté. La durée du mandat est de 3 ans renouvelable sans que ce soit automatique pour respecter la diversité associative. Les RU sont issus d'une association autre que celle où ils vont siéger. Ils sont adhérents de l'AVH, Lyon, et de la Fédération Famille Rurale, 42 et ont déposé candidature auprès de l'Agence Régionale de Santé, ARS, pour représenter les usagers au sein de la CDU de la FIDEV. Le RU agit pour garantir le respect et la promotion des droits des usagers au sein de l'établissement et contribuer ainsi à l'amélioration du système de santé. Il défend des valeurs essentielles au sein de la CDU comme l'accessibilité pour tous, la qualité et la sécurité des soins et de la rééducation, la promotion de l'usager acteur de sa prise en charge et de son projet de soins. Si vous souhaitez rencontrer un représentant des usagers, vous avez plusieurs possibilités. Liste de 2 éléments. Vous pouvez vous adresser directement à lui par mail. representant2usagers@gmail.com ou par courrier adressé à la FIDEV à l'attention d'un représentant des usagers. Vous pouvez laisser un message en précisant votre nom et coordonnées sur le répondeur dédié aux représentants des usagers au 09 70 10 00 54. Ils vous rappelleront dans les meilleurs délais. Fin de la liste. En cas de difficulté pour obtenir une réponse de l'établissement, vous pouvez adresser une réclamation à la RS Auvergne-Rhône-Alpes, dont le rôle est de veiller à la bonne application de la réglementation en termes de qualité et ou de sécurité des soins. Vous avez différents moyens mis à votre disposition, soit par voie électronique grâce à la plateforme sécurisée d'EMA Social, soit par courrier adressé AARS Auvergne-Rhône-Alpes CS 93 383 69 418 Lyon CEDEX. 5. Démarche d'amélioration continue de la qualité. Nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration continue de la qualité en lien avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, HAS. À la visite de certification en septembre 2023, l'établissement a obtenu la mention Haute Qualité des Soins. Haute Autorité de Santé, la certification D. La gestion des risques. Les événements indésirables associés aux soins. La gestion des risques a pour but de diminuer le risque de survenue d'événements indésirables associés aux soins, EIAS, et la gravité de leurs conséquences. C'est une démarche continue d'amélioration de la sécurité des patients associants. Organisation de la démarche. Identification, analyse et hiérarchisation des risques. Élaboration d'un plan d'action à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer. Capitalisation et partage d'expériences entre professionnels. Vous-même ou l'un de vos proches êtes concerné par un événement indésirable associé aux soins EIAS survenu lors de votre prise en charge. Vous pouvez contribuer à ce que cela ne se reproduise plus. Votre expérience est déterminante. Qu'est-ce qu'un événement indésirable associé aux soins EIAS? Un événement indésirable associé aux soins EIAS est un événement lié aux soins et non à l'évolution normale de la maladie qui aurait pu ou a entraîné un préjudice pour le patient. Événement inattendu qui perturbe ou retarde le processus de soins ou impacte directement le patient dans sa santé. Cet événement est consécutif aux actes de prévention, de diagnostic ou de traitement. Le presque accident associé aux soins doit être déclaré et partagé. Le presque accident se définit comme un EIAS pour lequel il n'y a pas eu de dommage. L'EIAS est défini par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme Un événement défavorable survenant chez un patient ou une personne accompagnée, associé aux actes de soins et d'accompagnement, qui a ou aurait pu avoir des conséquences pour la personne, qui s'écarte des résultats escomptés ou des attentes du soin ou de l'accompagnement, qui n'est pas lié à l'évolution naturelle de la maladie ou à l'état de dépendance de la personne, il s'agit d'un événement inattendu. L'analyse d'un événement indésirable associé aux soins EIAS est essentielle pour repérer et comprendre ce qu'il s'est passé, pour en tirer des leçons, pour l'avenir et ainsi éviter qu'il ne se reproduise. C'est pourquoi l'équipe soignante et rééducative de la FIDEV peut solliciter votre participation à un entretien pour recueillir votre parole, votre ressenti et votre expérience de l'événement indésirable associé aux soins. Vous êtes bien évidemment libre d'accepter ou de refuser. Vous pouvez être accompagné d'un proche. Avec votre accord, vous serez appelé à contribuer à la reconstitution chronologique de l'événement, l'identification de ses causes, l'identification de tout ce qui vous a paru remettre en cause votre sécurité ou celle de votre proche, rappeler des situations que vous aviez éventuellement signalées. Pendant les soins, proposez vos suggestions d'amélioration. Exemple. Une erreur de dossier médical. Une erreur d'identité. Coupure et ou brûlure lors de séances en ergothérapie. Chute à l'extérieur lors de séances de locomotion. Chute à l'intérieur, notamment en séance de psychomotricité, avec le travail en hauteur avec l'utilisation du trampoline. Infection contractée au sein de l'établissement. Qu'est-ce qu'événement indésirable grave associé aux soins, EIGS ? Un événement indésirable grave associé aux soins, EIGS, est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne aidant. Les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. Dès la survenue d'un événement indésirable grave associé aux soins, EIGS, des mesures immédiates seront prises pour assurer votre sécurité. Comme pour les événements indésirables associés aux soins EIAS, l'équipe soignante et rééducative de la FIDEV peut solliciter votre participation à un entretien pour recueillir votre parole, votre ressenti et votre expérience de l'événement indésirable grave associé aux soins EIGS. Ensuite, vous ou l'un de vos proches auront la possibilité de déclarer l'événement indésirable grave associé aux soins EIGS sur le portail de signalement des événements indésirables sanitaires. HTTP, signalement, social santé, gouv.fr. Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche si besoin. De notre côté, nous déclarons l'EIGS sur le portail. HTTP, signalement, social santé, gouv.fr. La prévention des infections associées aux soins. Une infection est dite associée aux soins, IAS, si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative, et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. Les précautions standards, incluant l'hygiène des mains, constituent le socle indispensable de prévention des infections associées aux soins et s'appliquent à la FIDEV. Les professionnels sont formés aux précautions standards et à la désinfection des dispositifs réutilisables. Les précautions standards correspondent à l'ensemble de mesures visant à réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignants, soigné et environnement, ou par exposition à un produit biologique d'origine humaine. Elle s'applique à tout professionnel, pour tout soin, en tout lieu et pour tout patient, quel que soit son statut infectieux. Elle constitue les premières mesures barrières. L'établissement est équipé de bornes de gel hydroalcoolique situées au deuxième étage à l'entrée du secrétariat, près de la machine à café et à la sortie de l'ascenseur au troisième étage. Chaque salle de rééducation est équipée de distributeurs de gel hydroalcoolique. Les sanitaires dédiés aux patients avec accès au lavabo sont au deuxième et troisième étage en sortant de l'ascenseur. Nous recommandons un lavage des mains, au plus savon ou gel hydroalcoolique, en arrivant dans l'établissement. 6. Charte de la personne hospitalisée. Liste de 1 élément. 1. Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. Fin de la liste. Liste de 1 élément. 2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. Fin de la liste. Liste de 1 élément. 3. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe au choix thérapeutique qui la concerne. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement. Fin de la liste. Liste de 1 élément. 4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées. Fin de la liste. Liste de un élément. 5. Un consentement spécifique est prévu, notamment pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. Fin de la liste. Liste de un élément. 6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n'aura pas de conséquences sur la qualité des soins qu'elle recevra. Fin de la liste. Liste de un élément. 7. La personne hospitalisée peut, sauf exception prévue par la loi, quitter à tout moment l'établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s'expose. Fin de la liste. Liste de un élément. 8. La personne hospitalisée est traitée avec égard. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. Fin de la liste. Liste de un élément. 9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. Fin de la liste. Liste de un élément. 10. La personne hospitalisée ou ses représentants légaux bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant, sous certaines conditions. Ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit. Fin de la liste. Liste de un élément. 11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçu. Dans chaque établissement, une commission des veille, notamment, au respect des droits des usagers, relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu'elle estimerait avoir subis. Dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des litiges et ou devant les tribunaux. Fin de la liste. 7. La personne de confiance. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé prévoit que toute personne majeure hospitalisée en France peut nommer une personne de confiance qui l'accompagnera lors de son hospitalisation. Cette personne pourra être un médecin traitant, un parent ou un proche majeur. Elle doit être désignée obligatoirement par écrit, à renouveler lors de chacune des hospitalisations. Cette information vous a été demandée dans votre dossier d'admission. Rôle de la personne de confiance. La personne de confiance pourra seconder le malade dans toutes ses démarches administratives au sein de l'établissement. Elle aura le droit de se faire communiquer les informations jusqu'ici réservées à la famille et au malade lui-même. Elle pourra assister aux entretiens médicaux et être consultée en cas d'impossibilité pour le patient hospitalisé de s'exprimer. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, disposition relative à la maltraitance. On peut définir la maltraitance comme tout acte ou comportement physique, verbal ou autre nuisant au bien-être, à l'épanouissement ou au développement de la personne. Si vous êtes confronté à une situation de maltraitance, composez le 3977 qui répond aux maltraitances commises envers des personnes âgées ou des personnes handicapées. De plus, en tant que patient, nous vous rappelons que toute personne qui constate ou est informée d'une situation de maltraitance est tenue de le signaler, conformément à l'article 434-3 du Code pénal. Membre de la CDU-SMR FIDEV. Les courriers sont à adresser nominativement à l'adresse de la FIDEV. 5 Place des Frères Voisins, 69 008 Lyon. Les courriers reçus seront transmis fermés aux intéressés. Tableau 5 colonnes et 15 lignes. Fonction. Statut. Nom, prénom. Téléphone. Mail. Présidente de la commission. Directrice FIDEV. Tabé Élise. Médiateur médecin. Titulaire. Nom pourvu. Médiateur médecin. Suppléant. Non pourvu. Médiateur non médecin. Titulaire. Madame Roustan Clotilde. 04. 72. 73. 22. 10. Croustan@fidev. Asso. Fr. Médiateur non médecin. Suppléant. Non pourvu. Représentante des usagers. Titulaire. Madame Borges Rosa. 09. 70. 10. 00 54 représentant des usagers @gmail.com représentante des usagers titulaire Madame Perrin Marie-Françoise 09 70 10 00 54 représentant des usagers @gmail.com représentant des usagers suppléant représentant des usagers suppléant. Non pourvue. Présidente de la commission médicale. Représentante du personnel de rééducation. Titulaire. Madame Pauline Marin, psychologue. 04 72 73 22 10. pmarin@fidev.asso.fr. Représentante du personnel de rééducation. Suppléant. Madame Audrey Paciotti, psychologue. 04 72 73 22 10. À paciotti@fidev.asso.fr.